Eh bien, je reçois aujourd'hui Laurent Arthur Duplessis. Le journaliste a participé aux origines de l'aventure du Figaro Magazine sous l'égide de Louis Powels avec la fameuse Nouvelle Droite d'Alain de Benoist. Le Figmag sera ce nouvel observateur de droite promis par le rédacteur en chef de Combat, auteur du Matin des Magiciens. Laurent Arthur Duplessis écrit depuis plus de 20 ans des essais croisant notamment la géopolitique et l'économie pour établir des prévisions à rebours de la pensée dominante mais qui se sont révélées justes avec le temps. Écrit depuis plus de 20 ans sur la troisième guerre mondiale qui vient, qui sont, selon lui, a déjà commencé. Bienvenue dans l'univers de Laurent Arthur Duplessis, bienvenue dans le monde réel, générique.
Nous sommes en guerre.
Eh bien, bienvenue dans le monde réel sur Géopolitique Profonde TV. Et pour débuter, comme chaque émission, n'oubliez pas de nous rejoindre si ce n'est déjà fait, en particulier le magazine de Géopolitique Profonde. C'est le magazine anniversaire, ça fait un an. Et vous retrouverez parmi les meilleurs contributeurs de ce magazine, que ce soit Philippe Erlin, que ce soit Jean-Maxime Corneille. Ce mois-ci, il y a aussi le général de Lavarde, un grand article de Frank Pengam pour rappeler ce que c'est que Géopolitique Profonde Magazine, et aussi d'ailleurs l'État profond. Il nous fait un bilan sur ce sujet. Voilà, ne manquez pas de vous abonner, si ce n'est déjà fait, au magazine de Géopolitique Profonde. Bonjour Laurent Arthur Duplessis.
Bonjour Nicolas Socker.
Et bienvenue dans ce nouveau scénario finalement de Géopolitique Profonde TV qui est le monde réel.
Et une émission, je crois, qui répond à une grande nécessité pour jeter un regard sur les tumultes du monde en dehors de la doxa envahissante des médias du système.
Ça vous y connaissez. Pour avoir écrit dès 2002 sur cette troisième guerre mondiale, on vous traitait à l'époque de docteur Falamour. Moi, je me souviens, quand je suis arrivé sur Radio Courtoisie, je me disais, oh, il est intéressant ce Laurent Arthur Duplessis, mais il abuse quand même, il exagère un peu. On a l'impression aujourd'hui que non seulement le scénario s'est déjà déroulé sous nos yeux, et que maintenant il faudrait presque courir derrière, tellement ça s'accélère.
Et oui. Et c'est vrai qu'au fil des années, j'ai souvent essuyé même, je dirais, quelques colibés.
Oui.
Car on me disait, alors, cette troisième guerre mondiale.
C'est pour quand ?
C'est pour quand ?
Dans la structuration, justement, de ce monde, je trouve, on vient de le voir ensemble, le générique de Géopolitique Profonde intéressant. Cette espèce de double injonction contradictoire avec, d'un côté, Klaus Schwab, on va dire le mentor qui dit « mais il faut pas avoir peur », et puis le disciple, Emmanuel Macron, qui, lui, nous explique « nous sommes en guerre ». En guerre, justement, mais pas la guerre que vous imaginiez, vous, en tous les cas, quand il l'a dit à l'époque. Est-ce que cette espèce de double injonction contradictoire, elle vous semble bien refléter le monde dans lequel nous vivons, en particulier le monde médiatique ?
Oui. Alors, effectivement, ce qu'on pourrait appeler cette dissonance cognitive entre Schwab et Macron illustre bien, je crois, les déréductions de la doxa des médias du système, à savoir que, pour Claude Schwab, faut pas avoir peur, sous-entendu, d'une mondialisation qui, à ses yeux, semble inexorable. Quant à Macron, lui, effectivement, il parlait de guerre déjà pour le Covid, mais là, évidemment, il y avait un abus de langage. Mais maintenant, pour le conflit ukraino-russe, Macron joue la provocation et là, Il joue un peu avec des allumettes dans un dépôt d'essence.
Au moins, oui. Sur un baril de poudre, c'est sûr. D'accord. Alors, vous, votre carrière de journaliste, elle débute à la fin des années 70. Vous êtes un étudiant, vous êtes à Sciences Po, vous avez fait l'école aussi de la presse.
De presse et puis voilà. Une maîtrise de droit, un débat de droit public.
Mais en tout cas, vous allez plutôt vous orienter vers une carrière de journaliste, vous aimez le journalisme, l'information.
Voilà. Et puis un détour par une licence de philo au Paris 4, mais je ne savais pas trop en fait quoi faire. Et c'est par hasard que je suis devenu journaliste finalement. Parce que je faisais le tour du Mont-Blanc avec mes deux frères aînés, c'était en l'été 76, je crois.
Oui.
Et je tombe sur une interview dans le Nouvel Obs, où Louis Powell s'exposait son ambition de faire un nouvel observateur de droite. Alors, à l'époque, le Nouvel Observateur, c'était le fleuron de l'intelligence journalistique.
Eh oui.
Il était de gauche.
Évidemment.
Hein, bien sûr.
La bien-pensance dans toute sa splendeur.
Et il est vrai que c'était à l'époque une publication de très haute qualité.
Oui. Ça n'a rien à voir avec ce que c'est devenu, c'est sûr.
Voilà. Ça a complètement périclité. Et des gens comme Gisbert, par exemple, étaient les jeunes talents de l'époque qui avaient, en quelque sorte, à la suite notamment de l'Express de Servan-Schreiber, inventer un nouveau style de presse, un nouveau style d'écriture journalistique et d'iconographie, etc. C'était une presse d'avant-garde à l'époque, et dans la forme et dans le fond. Et Powell avait raison d'employer l'expression nouvel obs de droite.
De droite.
Et lui, Powell, avait un talent fou pour éditorialiser avec un style à la fois suprêmement élégant, suprêmement efficace et suprêmement rythmé. Et effectivement, il disait toujours, il faut faire des phrases courtes, mais les phrases courtes, ça ne voulait pas dire absence de style.
Non.
Et lui atteignait la quintessence de la phrase courte, en même temps remarquablement stylée. On n'écrivait plus comme du temps de Chateaubriand, effectivement, il fallait bien le comprendre. Et ça a été un grand maître pour apprendre à écrire.
Donc pour vous aussi,
ah oui,
ça a été votre...
Ah oui. Oui, d'autant que quand on sort de l'université, notamment quand on a fait du droit, on s'est engourdé la plume.
Ah oui, on s'est engourdé la plume.
Parce que les commentaires d'arrêt en droit administratif, c'est pas exactement...
Des phrases très très longues alors là, pour le coup.
Des phrases très très longues, très empâtées,
oui.
Et c'est pas la meilleure école de style qui soit.
Non, c'est sûr.
Et arrivé au Figaro Magazine, après les commentaires d'arrêt de droit administratif, il a fallu s'adapter. Hein.
Alors c'est sulfureux le Figaro Magazine, c'est le groupe Hersan à l'époque, mais il ose associer la nouvelle droite.
Tout à fait, et... À l'automne 1978, quand démarre cette publication, supplément magazine du week-end, ça semblait une gageure, parce que tout le monde de la presse disait « il est fou, Hersan, des magazines du week-end, il y en a déjà, etc. Le marché est saturé, il n'y arrivera pas, ça va se casser la figure. » Et en fait, le coup de génie d'Hersan et de Powell, ça a été de combiner... entre la période de septembre 78 et, je dirais, l'été, automne 80,
oui.
Une publication qui, à la fois, comportait des articles de fond, avec Alain Benoît, Yves Christen, Christian Durant, etc., et notamment les extraordinaires éditoriaux d'Alain Benoît. Il y avait deux éditoriaux, celui de Louis Powell, celui d'Alain Benoît.
Ah oui, il y avait deux éditeurs.
Deux éditeurs. Et les articles d'Yves Christen, par exemple, sur la sociobiologie, il avait fait connaître au grand public français un savant comme Conrad Lorenz,
ah oui,
qui était inconnu du grand public en France. L'éthologie, la science du comportement des animaux, et Robert Ardrey aussi, un autre éthologue. Tout ça, c'est le Figaro Magazine qui l'a fait connaître à un grand public, la sociobiologie. Et il y avait là...
Ça rendait un peu plus intelligent à l'époque, oui, de lire les journaux. Oui. C'était plus le cas aujourd'hui.
Et alors, le coup de génie, ça a été de coupler ça avec une partie art de vivre très développée, qui à l'époque était dirigée par Maurice Baudouin, qui était un vieux complice de Robert Hersant, puisqu'ils avaient planqué ensemble vers 1948 pour photographier le prototype de la DS et lancer l'autojournal avec en couverture la photo.
De la DS, la fameuse DS.
Mais c'était des hommes de presse.
Et oui.
C'était des hommes de presse, ils avaient ça dans le sang.
Et oui.
Ils aimaient la presse. Et hélas, aujourd'hui, il n'y a plus d'hommes de presse qui soient propriétaires de journaux, comme c'était le cas.
Eh ben alors voilà, hommes de presse et même dans de l'investigation, pratiquement. Hein, ah, ils n'hésitaient pas à y aller.
Oui, et effectivement, les premières années du Figaro Magazine ont été un feu d'artifice intellectuel, ouais. Donc. Et en même temps, c'était bien écrit. Louis Poel se tenait à ce que ce soit bien écrit.
Ouais.
Et bien écrit, justement, c'était plus imiter Chateaubriand et faire des phrases d'une demi-page. Et Dieu sait si j'aime bien Chateaubriand, mais... Il n'aurait pas eu sa place au Figaro Magazine, effectivement.
Ah, ah.
Mais c'était faire des phrases courtes et qui pètent, qui soient efficaces, et que l'article soit agréable à lire, et que le lecteur soit pris dès la première phrase et ne quitte plus l'article jusqu'à la dernière phrase. C'est une école de style, c'est presque une école de pensée, d'ailleurs,
mais
parce
oui.
que,
bah, l'un ne va
comme
pas sans
disait
l'autre.
Nietzsche, la forme, c'est aussi le fond.
Bien sûr.
Et l'école Louis Poel, c'était une excellente école pour apprendre à écrire dans un style moderne.
Alors, Alain de Benoist, finalement, va être poussé rapidement, et certains de ses comparses, vers la sortie. Hersant est obligé rapidement de céder à un certain nombre de pressions dont vous pouvez peut-être développer.
Oui, alors, lorsque le Figaro Magazine apparaît en début septembre, 1978, avec en couverture le portrait de Giscard d'Estaing.
Ah, le portrait de Giscard d'Estaing.
Pourquoi ? Parce que, effectivement, le président Giscard d'Estaing, à l'époque, avait donné l'ordre au Crédit Lyonnais, qui était encore à participation majoritaire de l'État, de débloquer pour Hersant le financement nécessaire pour l'acquisition du Figaro, donc, le quotidien, et la création du supplément Figaro Magazine.
Mmh.
Et donc, il fallait rendre grâce au président de la République de l'époque, certes. Et c'était d'ailleurs feu Alain Griotré, un grand résistant de la Deuxième Guerre mondiale, qui Absolument. Avait été parachuté dans le maquis du Sud-Ouest et qui avait été un grand gaulliste, mais en même temps aussi un petit peu en froid avec De Gaulle sur la question algérienne ensuite. Alain Griotré, qui était un proche de Giscard d'Estaing, qui avait fait le lien entre Robert Hersant et Giscard d'Estaing, et qui avait été donc l'artisan, en quelque sorte, de cette collaboration, entre guillemets, entre Hersant et Giscard, et Giscard ayant donc fourni, via le Crédit Lyonnais, le financement.
Et en 78, en tous les cas, on était en pleine guerre au sein de la droite, entre Chirac et Giscard, donc j'imagine qu'il y en a un à qui ça ne devait pas guère plaire, tout ça.
Voilà, alors, Chirac s'en est accommodé, tout de même.
Oui, il n'y a pas le choix.
Il était maire de Paris, et il ne vivait que pour devenir président de la République.
Il faudra qu'il attende encore longtemps avant d'y arriver. Mais il y arrivera.
Et alors, effectivement, lorsque a commencé à s'opérer le recentrage de la ligne éditoriale du Figaro Magazine, il y a une partie de l'équipe qui a créé un nouveau journal intitulé Magazine Hebdo, magazine hebdomadaire aussi, avec le soutien de Jacques Chirac, car Francis Lefebvre, qui était un ami proche de Jacques Chirac, avait obtenu son soutien. Mm-hmm. C'est-à-dire, en réalité, Chirac avait demandé au grand financeur de ce qui était le RPR encore à l'époque, de mettre la main à la poche, et notamment Jérôme Monod, le patron de la Générale des Sceaux.
Oui.
pour soutenir financièrement le décollage de ce nouveau magazine.
D'accord.
Alors effectivement, quand on crée un magazine, en général, il faut à peu près 4 ans pour atteindre le point d'équilibre. Ce n'est pas tout de suite qu'on l'atteint. Hein. Il faut de l'argent au départ. Magazine Hebdo était sur une belle courbe de croissance, normale, disons, un chemin de croissance normal.
Mmh.
Et ça correspondait aussi, d'ailleurs, à un besoin des lecteurs, parce que Magazine Hebdo reprenait un certain nombre de thématiques des premières années du Figaro Magazine.
Ouais.
Et il y avait des lecteurs qui demandaient ça, qui, non, des lecteurs augmentés. Moyennant quoi, le monde de la publicité s'est ému de Magazine Hebdo et des responsables de budget dans les agences recevaient des instructions comme quoi il ne fallait pas acheter des pages de pub dans Magazine Hebdo.
Oui. Parce
qu'on mettait les noms Alain Benoît, Grégory Ponce, Jean-Claude Vallat qui avait été rédacteur en chef au magazine. Et en fait... À un moment donné, bon, ça n'a pas trop joué quand même. Ce qui a joué à un moment donné, c'est que Borgine et Hersan sont allés voir Chirac.
Ouais.
Et ils lui ont dit, il faut arrêter de financer le décollage de Magazine Hebdo, sinon, on soutiendra moins dans nos colonnes. Ouais. Or, Hersan, il avait non seulement... Le Figaro et Figaro Magazine, mais il avait la presse quotidienne régionale, une grande partie.
La fameuse PQR.
La PQR, qui à l'époque, nous étions encore avant Internet, avant les réseaux sociaux. Nous étions encore dans la ligne du papier très largement.
Oui.
La télévision s'est développée, etc. Mais enfin, le papier était encore prévalent.
Oui.
Et s'aliéner la PQR, c'était très, très, très dangereux quand on voulait devenir président de la République française.
C'est sûr.
Chirac a obtempéré. Et Jérôme Monod a essayé de financer le décollage du magazine Hebdo. Et ainsi, ayant une panne de carburant en plein décollage, a dû fermer ses portes. Alors que c'était sur une courbe de croissance magnifique.
Hein. Laissant la voie libre donc au Figmac.
Figaro Magazine.
Mais alors qu'est-ce qui s'est passé pour que, très rapidement, on en change, si ce n'est la ligne éditoriale, en tout cas on commence à épurer un peu tranquillement, alors, éthiquement, ce magazine.
Alors, en fait, ça s'est décomposé en deux phases. Donc, la première phase, effectivement, dite « scandaleuse », entre guillemets, a fourni une publicité gratuite. Parce qu'en effet, les jeux de ping-pong entre les éditoriaux magnifiques de Louis Powels et les réponses exacerbées dans Libération, notamment, et puis le Nouvel Obs, etc., entretenait un climat de polémique et d'échange d'idées, qui était d'ailleurs très sain.
Avec une bonne aloi, évidemment.
Ben oui, et qui faisait une publicité gratuite au Figaro Magazine. Il n'y avait même pas besoin d'acheter des panneaux publicitaires pour le faire connaître, car les scandales, entre guillemets, le faisaient très bien connaître. Et Louis Powels avait un sens aigu de la formule, donc.
C'est lui, par exemple, Powels, la fameuse notion de sida mental.
Exactement, sida mental.
Ça a vraiment, alors là, une levée de bouclier.
Qui a été du plus grand bénéfice pour faire connaître le journal encore mieux.
Alors, rappelez-nous l'histoire du sida mental. Qui était atteint du sida mental ?
En fait, c'était la pensée de gauche, etc. Alors, ça paraissait le samedi matin. Les journalistes avaient en général ça en service de presse la veille déjà. Et quand le lundi matin arrivait, effectivement, l'ambiance était électrisée par la polémique du week-end.
Du week-end.
Parce que, alors là, Powell s'était traité de monstre. Et alors après, il fallait peut-être faire un édito pour un petit peu rééquilibrer les choses, etc. Mm-hmm. Mais enfin, c'était très sain, c'était très positif, parce qu'il y avait un débat d'idées.
Il y avait un débat d'idées, ce qui n'existe absolument plus aujourd'hui.
Voilà. Et alors, après cette première phase de lancement, entre guillemets scandaleuse, et très riche intellectuellement, il y a eu la deuxième phase. C'est la phase d'extension à un public plus large. C'est-à-dire que de septembre 1978 à 1980, avec à l'été 1979, une couverture média à peu près dans le monde entier sur le Figaro Magazine, sur cette expérience Nouvelle Droite, etc. Il y a eu des articles partout, des États-Unis à l'Australie, au Japon, etc. Hein, ça a été phénoménal.
Hein. Ça a été le moment de gloire de cette fameuse Nouvelle Droite, dont on reparle encore aujourd'hui. Dont on reparle aujourd'hui.
Voilà. Et alors, ensuite, Ersan s'est orienté à la fois pour se mettre en conformité avec l'idéologie dominante, celle des annonceurs notamment.
Alors voilà.
Et qui joue un rôle quand même très considérable.
Eh oui.
Il s'est orienté vers une ligne beaucoup plus recentrée, et beaucoup voilà. plus neutre.
Consensuelle, comme
consensuel.
On dit aujourd'hui.
Mmh. Donc le contenu idéologique et politique s'est appauvri. Le nombre de mots devant être utilisés aussi, puisqu'il fallait se mettre au niveau d'un public plus large, donc il fallait avoir un vocabulaire plus réduit. Et alors, et c'était un autre genre d'exercice, évidemment, et le journal a continué à se développer, puisque de 1980 à 1988, il est passé en gros de 450 000 exemplaires jusqu'à des pointes en 1988 à 800 000, 890 000 exemplaires.
Mais c'est beaucoup comparé à ce que l'on peut vendre aujourd'hui.
C'est énorme.
Ou 90% de ce qui est mis sous presse en général finit au pilon. Hein.
Alors toujours avec cette combinaison de l'art de vivre,
ouais.
Qui effectivement marchait très bien, il y avait eu par exemple 4 filles sur un bateau. Alors ça c'est Ersan qui avait cette idée-là. C'est de suivre l'odyssée de 4 ravissantes jeunes filles amenées sur un bateau pour faire une sorte de tour du monde.
Dans un voilier, j'imagine, un beau voilier.
Un voilier, absolument, un joli voilier, un très joli voilier. Et de jeunes beautés BCBG, dans le style Figaro Magazine, sans la moindre once de vulgarité.
Hein. Ah, ça change d'Aya Nakamura aujourd'hui, ça on veut bien le croire.
Ah, oui, oui. Et d'un samedi à l'autre, le lecteur pouvait suivre les aventures de ces 4 jeunes beautés qui se prélassaient sur ce yacht magnifique, ce bateau à voile magnifique. Il y avait beaucoup de succès.
Oui.
Et ça participait...
Et découvrait le monde, en fait, c'est ça ? Avec des belles photos, j'imagine.
Avec des magnifiques photos, parce qu'il faut dire une chose, c'est que le Figaro Magazine cultivait l'excellence en matière de photos.
Mais Powell, de toute façon, c'est aussi le fondateur de Planète.
Oui, Powell a réussi tout ce qu'il a touché.
Ouais.
Il a fondé Planète. Planète a eu un succès, on peut dire planétaire, puisque Planète a été traduit en de multiples langues. Planète a été un des grands, grands succès de presse de l'époque. Et il faisait ça avec un acolyte qui était une sorte de surdoué qui avait une mémoire absolue. Il s'appelait Yves Bergier.
Ah, le fameux Yves Bergier à qui il coécrit Le Matin des Magiciens.
Exactement.
Personnalité incroyable aussi.
Oui. Et alors, il avait une mémoire absolue, c'est-à-dire qu'il arrivait dans un bureau et il retenait tout ce qu'il voyait sur le bureau. Ce qu'il y avait d'écrit sur du papier, les couvertures de livres. Il retenait tout.
Un peu comme certains genres d'échecs.
Oui. Ouais. C'est un phénomène. Et simplement, les livres qu'il a voulu écrire lui-même sans Powell ne se sont pas vendus. Parce qu'il n'avait pas la magie du style de Powell, il n'avait pas ce coup de patte à la Powell, ce qui faisait qu'on prenait le livre et on ne le quittait plus jusqu'à la fin.
Ouais.
Il était emmerdant, quoi. Mais le binôme des deux, ça avait magnifiquement marché. Et d'ailleurs, Planète avait exploré toutes sortes de domaines qui aujourd'hui paraissent finalement avoir été d'avant-garde.
Hein. Oui, absolument.
Et c'était la magie Powell, s'il avait pris à un moment donné la direction d'un mensuel artistique qui fait que l'été, il en a refait un succès. Il avait pris la direction d'un journal féminin, c'était pareil. C'était un magicien de la presse.
Voilà, ouais. Magicien de la presse. Alors ça n'existe plus. On serait bien en peine de trouver un équivalent aujourd'hui.
Et le même Powell, à l'âge de 25 ans, est devenu célèbre du jour au lendemain en écrivant un roman qui a tout de suite rencontré un grand succès et qui était intitulé « Saint quelqu'un ».
Qui s'appelle intitulé comment ?
Saint quelqu'un. S-A-I-N-T et quelqu'un. Et ben, c'était son premier roman. Ça a eu un grand, grand succès. D'ailleurs...
Mais le plus gros succès dont on parle encore aujourd'hui, c'est le Matin des magiciens.
Ah oui, le Matin des magiciens. Alors là, succès planétaire, dans la foulée de Planète. Et Powells a toujours eu un petit pincement au cœur en pensant qu'il était passé à côté d'une grande carrière de romancier.
Ah.
Puisqu'il s'est fait connaître à 25 ans donc avec ce roman. Et puis en fait, ensuite, il a été happé par le monde de la presse, dans lequel il a magnifiquement brillé. Mais effectivement, on ne peut pas tout faire. Et comme disait Jean d'Ormesson, quand on écrit un livre, il faut penser qu'à ça. Mais quand on dirige un journal, on ne peut pas penser qu'à ça, qu'au livre. Et donc, effectivement, et je crois qu'il a son regret était fondé sur... une réalité, c'est qu'effectivement, il avait fallu qu'il choisisse entre une carrière de romancier, qui aurait pu être grandiose, et une carrière d'homme de presse qui fut grandiose.
Alors avant de commencer sur votre propre carrière aussi, Laurent-Arthur Duplessis, à la suite, entre autres, votre collaboration au Figmag, revenir encore une dernière fois, comment expliquez-vous qu'au tournant des années 80, débute cette espèce d'affadissement, cette volonté de tout normer? Est-ce la gauche au pouvoir de François Mitterrand? Est-ce la seule explication? Est-ce que ce sont les agences de pub? Est-ce que ce sont les annonceurs? Qu'est-ce qui explique que finalement toute cette liberté de penser, de s'exprimer, elle va pas disparaître tout d'un coup, puisque on en voit encore aujourd'hui les ultimes conséquences, mais elle débute à ce moment-là. Et ça, vous étiez au cœur avec le Figaro Magazine, qui était tellement mal pensant par rapport à certains, mais qui avait encore le droit de citer. Qu'est-ce qui a fait? Est-ce que c'est uniquement la gauche qui est responsable de l'avoir mis sous l'été noir, ou bien est-ce qu'il y a d'autres raisons économiques ou autres?
Il y a, je dirais, la classe dirigeante française.
D'accord. L'élite, dans son ensemble.
L'élite. Intellectuelle, universitaire, artistique, etc. C'est-à-dire que, à l'époque, dans les années 80, on avait l'arrivée au pouvoir de Mikhail Gorbatchev, qui a lancé la glasnost, la libéralisation du régime soviétique. On avait Ronald Reagan, qui lançait la guerre des étoiles à grands coups de milliards de dollars, ce qui, évidemment, tétanisait et mettait en état de sidération les dirigeants soviétiques qui voyaient qu'ils ne pouvaient pas suivre.
Mmh.
On avait, en quelque sorte, déjà à ce moment-là, les prémices du mondialisme triomphant sous égide américaine.
Et néolibéral ?
Néolibéral. Et il faut bien dire que Louis Powells avait eu un autre coup de génie à ce moment-là. C'est que, après avoir abandonné... je dirais la thématique scandaleuse, entre guillemets toujours, disons Nouvelle Droite, il a embrayé sur une nouvelle thématique qui, justement, a fait passer les tirages, en gros, de 450 000 à 800 000 exemplaires. La nouvelle thématique, c'était le riganisme.
Le riganisme.
Le néolibéralisme riganien.
Ouais.
Le cow-boy hollywoodien devenu président des États-Unis, le cow-boy hollywoodien que la gauche avait méprisé joyeusement, puisque...
Absolument, oui, on disait c'est vraiment l'auteur de série Z.
C'est un imbécile, c'est un mongolien, il signe avec le pouce. Pensez donc à un acteur de cinéma hollywoodien qui devient président des États-Unis, qui est incapable de lire une note de plus de 20 lignes.
Après, disait-on, un marchand de cacahuètes, quand même. Carter.
Et maintenant, il apparaît comme un des plus grands présidents américains.
Ouais.
Mais Louis Powells avait eu un petit coup de génie encore, là, un grand coup de génie. C'est de centrer le Figaro Magazine sur la thématique Reagan, néolibéralisme. Et donc, il y avait très souvent des couvertures sur Reagan, effectivement. Il y avait des grandes interviews de Reagan et de son entourage par des équipes du Figaro Magazine.
Mais pourtant, on ne pouvait pas imaginer, il n'imaginait pas, je pense, Powels à l'époque, que derrière ce néolibéralisme, il y avait le mondialisme qui allait se vêtir de ses oripeaux.
Alors, je ne sais pas trop s'il imaginait ou pas, parce qu'il avait beaucoup de flair, tout de même.
Oui.
C'est un grand intuitif.
Mais l'aurait-il souhaité, l'homme du matin des magiciens, ça m'étonnerait.
Non, je crois que surtout, ce qu'il a voulu faire, c'est vendre du papier. Et il avait un génie pour vendre du papier. Et il avait senti, à ce moment-là, le vent d'épopée et de liberté que représentait le Reaganisme, les Reaganomics. Un besoin français de s'émanciper de certains carcans fiscaux.
Alors c'est à ce moment-là qu'on reprochait un peu à certains d'être dans l'anti-américanisme primaire.
Oui.
Étrangement, quand on était de droite, il fallait être plutôt américanophile.
Oui.
Ça, ce qui est d'ailleurs, ça ne cesse de s'inverser. Hein. C'est un peu comme le patriotisme en France. Fois on est pro-américain, on est de gauche. Une fois on est de droite.
Tout à fait. Et donc, il y avait des grands articles sur la guerre des étoiles, sur le cow-boy Reagan dans son ranch, avec des photos magnifiques. Et puis alors, il y avait une icône, hein. C'était John Wayne.
John Wayne, oui.
Voilà, le géant, John Wayne. Ah, qu'est-ce qu'on a fait sur John Wayne, effectivement. Et c'était, alors là, effectivement, le Figaro Magazine... du culte des États-Unis, mais les États-Unis des pionniers, des cow-boys, pas les États-Unis de la haute finance mondialiste.
Oui.
Et il est vrai que le Figaro Magazine des années 80 ne montrait pas l'essor qu'il y avait beaucoup déjà à l'époque de l'hyper-financiarisation de l'économie américaine, de la prise de pouvoir des banquiers sur les industriels. C'était l'époque où les industriels américains commençaient à être supplantés par le monde de la finance, par les fonds de pension, par les financiers.
Déjà à cette époque.
Ça commençait. Ça n'était pas encore à l'époque aveuglant comme aujourd'hui. Ça commençait, mais Powels ne le voyait pas ou ne voulait pas le voir, parce que de toute façon, il ne s'agissait pas non plus de gâter le tableau par des considérations teintées d'aigreur, si on peut dire. Hein. Et au contraire, ce qu'il vendait aux lecteurs, Powels, c'est le souffle, c'est l'oxygène de l'Amérique des cow-boys retrouvée en la personne de Reagan et de John Wayne, et de cette victoire américaine sur le bloc de l'Est, parce qu'on sentait bien déjà que l'Union soviétique battait de l'aile. Gorbatchev, c'était déjà la victoire des États-Unis. Gorbatchev faisait l'ouverture à l'Ouest. Mais Gorbatchev avait ceci de remarquablement précieux, c'est que lui proposait aux Européens de construire la maison commune.
Oui.
C'était le mot d'ordre. Et Gorbatchev avait ambitionné de faire une architecture de sécurité
Europe,
Russie.
Mais ça n'a pas été abandonné après lui, finalement, après la chute du mur, au contraire, même Yeltsin a été très pro-occidental, très pro-américain, et j'ai envie de dire Poutine dans son premier versant. Donc cette volonté d'une sécurité commune européenne, d'une maison commune, c'est quelque chose qui... L'Occident et l'Europe a plus d'une fois reçu cette main tendue, ne l'a jamais prise.
Et la tragédie, c'est qu'elle ne l'a jamais prise. Et pourquoi ne l'a-t-elle jamais prise? Parce que ces classes dirigeantes européennes profondément serviles vis-à-vis des États-Unis ont refusé de la saisir, cette main, et évidemment... saisir cette main, c'était déplaire de plus en plus à une classe dirigeante américaine hyper-financiarisée qui redoutait par-dessus tout de voir la synergie entre une Europe de 450 millions d'habitants à haut coefficient capitalistique et d'éducation et de savoir-faire et une Russie de 17 millions de kilomètres carrés bourrée de matières premières. La synergie des deux entités aurait créé une économie surplombante par rapport à l'économie américaine.
De l'Empire.
Par rapport à l'Empire. Et effectivement, qu'a fait Washington ? Washington s'est ingénié à appliquer les préceptes du Grand Échiquier,
bien sûr,
le fameux livre de Brzezinski, dont un des principes majeurs énoncés par cet expert d'origine polonaise qu'est Brzezinski, c'est mettre une herse, une barrière, un fossé infranchissable entre les pays d'Europe et la Russie. Et là, cette classe politique totalement oblative vis-à-vis des États-Unis, il faut bien le dire souvent, comme le montre Eric Branca dans l'Ami américain, complètement acheté souvent, hein, par divers biais,
oui,
conférences payées à prix d'or, financement d'initiatives diverses, etc.
Mm-hmm.
Cette classe politique s'est laissée faire et
a laissé corrompre.
Et a tourné le dos aux préceptes gaulliens de l'Europe de l'Atlantique à l'Oural. Ça aurait été l'Europe de l'Atlantique à Vladivostok, en réalité. Et il a arrêté ça à l'Oural, mais bon...
oui, ou de Lisbonne à Vladivostok.
De Lisbonne à Vladivostok. Mmh. Alors, de Lisbonne à Vladivostok, évidemment, l'ensemble aurait été d'une telle efficacité, d'une telle puissance économique et financière, d'une telle autonomie sur le plan des matières premières, etc.
De l'industrie, de l'intelligence.
L'intelligence, etc.
Il y avait tout. Il y avait les idées, il y avait les matières premières, il y avait absolument tout. Et la capacité industrielle.
Que du coup, l'économie américaine aurait en quelque sorte été rejetée à la périphérie du monde. Et elle aurait été dominée, et non pas dominante. Et effectivement, en plus, cet ensemble aurait bénéficié d'une base industrielle considérable parce que, au lieu de se désindustrialiser comme l'Europe l'a fait, au contraire, je pense qu'elle elle aurait conservé des ambitions industrielles de haute volée, favorisées par le gaz pas cher et le pétrole pas cher de la Russie et par justement la surabondance de métaux ferreux et non ferreux du sous-sol et de l'immense sous-sol russe, plus la richesse agricole, etc. Et là, effectivement, je pense que l'Europe serait restée une grande puissance industrielle et je pense que l'Europe, d'une certaine manière, aurait pu contrer l'hyperfinanciarisation de l'économie mondiale impulsée par Wall Street, les financiers américains, qui ont piloté l'économie mondiale dans la direction de l'hyperfinanciarisation dont nous payons de plus en plus le prix maintenant. Et d'autre part, je pense aussi que ça aurait évité cette dichotomie qu'a installée Washington en faisant entrer en 2001 la Chine dans l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, et en accentuant la division des tâches, la spécialisation des tâches à outrance, dans laquelle l'Occident devenait un consommateur à crédit, faisant chauffer la planche à billets, et la Chine devenait l'usine du monde, la base industrielle du monde. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à l'époque, d'éminents esprits comme Alain Minc ou Jacques Attali disait que de toute façon, il ne fallait plus faire d'industrie.
Ben non, bien sûr. Ils appelaient ça les avantages comparatifs, je crois. Oui. Théoriciens, entre autres, de la direction des prévisions de Bercy.
Il fallait laisser ça aux pouilleux, aux pauvres, qui allaient suer le burnous, effectivement.
Nous, il fallait rester concentré sur ce qui était à forte valeur ajoutée, à valeur ajoutée, c'est ça.
Hein. Valeur ajoutée, c'était le tertiaire, le quaternaire. Et puis ça, c'était les tâches nobles. Celle impartie à la droite de la courbe de Gauss, si on peut dire, des puissants intellectuels.
Bien sûr.
Les crétins, eux, étaient voués à l'industrie, quoi. Et on voit aujourd'hui le résultat.
Alors on voit le résultat aujourd'hui. J'ai envie de dire ce que vous dites, Laurent-Arthur Duplessis. Aujourd'hui, on ne va pas dire que c'est d'une banalité affligeante, on ne va pas dire que oui, mais tout le monde le dit. Mais là où, et après on ira sur la prospective, parce que je pense que vous avez systématiquement 20 ans d'avance en analyse, c'est qu'en 2002, lorsque vous dites que la Troisième Guerre mondiale a débuté, mais tout ce qu'on entend là, qu'on entend rabâcher en effet sur un certain nombre de réseaux sociaux, dont d'ailleurs sur Géopolitique Profonde, hein, n'hésitons pas à le dire, mais vous, ça fait 20 ans que vous le dites.
Oui, et je remercie mon éditeur, Jean-Cyril Godefroy,
oui.
Qui est génial.
Oui, de vous avoir suivi sur cette aventure. Et oui. Publié en octobre 2002, la Troisième Guerre mondiale a commencé.
Voilà, alors, bon, moi j'avais proposé comme titre « Demain, la Troisième Guerre mondiale ». Bon,
oui.
Il a pensé que effectivement le passé composé serait plus vendeur, ce qui a été le cas d'ailleurs, parce qu'on a beaucoup vendu. On a fait 3 tirages coup sur coup, et avec des ventes excellentes. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, il y avait une émotion de plus en plus forte du fait que Saddam Hussein, qui le 3 août avait envahi le Koweït, et était engagé dans un bras de fer avec Washington pour se retirer du Koweït.
Oui.
Et moi, je disais non, on ne va pas se retirer du Koweït.
Il n'y avait pas l'intervention encore des Américains à l'époque.
Pas encore, ouais. Justement. Et elle était en suspens.
Et même de la France à l'époque, ouais. Dans cette première guerre en Irak, je rappelle, il y avait la division Daguet,
oui.
Dont on était, dont on se trouvait si fiers.
Et oui. Et en fait, Saddam Hussein n'a pas cédé. Et il y a eu la première guerre du Golfe. Donc pendant toute cette période... le livre se vendait très bien parce que les gens étaient anxieux. Et puis, pendant les opérations, il continuait à se vendre. Et puis, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu cette scène qui a fait le tour du monde où W. Bush a atterri sur un porte-avions américain.
Eh oui.
Dans une tenue de pilote. Ça ne le pilotait pas, lui. Hein.
On a des présidents américains qui aiment bien se déguiser. D'ailleurs, on en a un en France aujourd'hui qui aime aussi bien, oui. Les déguisements.
Et en général,
c'est bon
signe. Plus ils sont à côté de la plaque, plus ils se déguisent, j'ai l'impression.
Oui.
Et il sort de l'avion et il fait le fameux V de la victoire. Et alors là, les lecteurs ont pensé que bon, bah, le danger était passé. Mmh. Les ventes se sont écroulées à ce moment-là. Mais mon éditeur a refait encore 2-3 tirages, dont le dernier en date en 2011, au fil d'événements qui, à un moment donné, ressuscitaient ces craintes. Mmh. Mais alors aujourd'hui, évidemment, c'est tous les jours qu'il y a des événements.
Mais est-ce qu'alors, en 2002, vous croisiez déjà, je oui. dirais, la géopolitique avec l'économie ?
Ah,
parce que ça, c'est une de vos marques de fabrique.
Alors, complètement, complètement, et tout à fait... et d'ailleurs, je vois que Frank Pingham, lui aussi, croise...
Oui, tout à fait, c'est une des marques de fabrique du magazine de Géopolitique Profonde, tout à fait.
Et alors, j'étais tout à fait avec un ancien collègue du Garo Magazine, Francis Jolinck, avec qui j'ai fait le chapitre économique, tout à fait axé sur l'école autrichienne d'économie, c'est-à-dire... von Mises, Hayek...
Oui, oui, bien sûr. Oui.
École autrichienne d'économie qui accorde une importance tout à fait primordiale à la monnaie. Le rôle de la monnaie.
Le rôle de la monnaie.
Dans l'économie. Et notamment le rôle de l'abus de la planche à billets, pour parler familièrement, qui fabrique les bulles spéculatives.
Oui.
Actions, obligations et autres...
Il faut rappeler en effet l'importance de l'école autrichienne. On l'oublie souvent, les économistes, hein, aujourd'hui.
Et l'école autrichienne qui disait que une bulle spéculative finit toujours par exploser.
Et, oui.
Et on en a eu des explosions. Il y avait eu la dernière en date à l'époque, celle de 2000, la bulle Internet. Et Alan Greenspan, qui avait été patron de la Réserve fédérale américaine, disait « je préfère une bulle à une crise ». C'est-à-dire que Après les bulles, il y avait à nouveau la planche à billets qui réchauffait, oui. et on repartait vers une nouvelle bulle. Et alors, la nouvelle bulle qui avait éclaté, c'était celle des subprimes en 2007.
Oui.
Et dans le chapitre économique écrit à l'été 2002, ils ont tiré le sonnette d'alarme sur le danger de plus en plus important de ces bulles spéculatives de plus en plus énormes créées par une planche à billets de plus en plus chauffée au rouge et par cette course à la création monétaire frappée du bris, de démesure, qui faisait que finalement, jamais les économies occidentales ne réglaient les problèmes structurels, c'est-à-dire jamais elles ne faisaient le ménage dans les éléments malsains de son économie. Elles sortaient des crises par encore plus de création monétaire et du même coup, elle ne faisait qu'augmenter de crise en crise les déséquilibres systémiques. Et on a vu justement...
Jusqu'à la crise finale.
Jusqu'à la crise finale à venir.
À venir. Est-ce que vous faites un lien entre finalement cette crise des subprimes et puis donc un capitalisme financier anglo-saxon qui est ébranlé et qui, la meilleure défense étant toujours l'attaque, on le sait bien, toute la création de tous ces foyers de tension et le début de ce qui va aboutir à la guerre en Ukraine, où il y a un raidissement qu'on essaie d'imputer à Poutine, mais en réalité, très vite, on commence à lui mettre des pots de banane, il y a la Géorgie, il y a tout ça. Après, vous avez un certain nombre de révolutions qui sont attisées par les États-Unis. Est-ce que finalement, c'est lié? Est-ce que suite à cette déstabilisation sur le plan financier, en termes de géopolitique, les néo-conservateurs vont devenir plus agressifs?
Tout à fait. Parce qu'en effet, l'empire américain, car il y a un empire américain, repose sur deux piliers. La monnaie, le dollar, le privilège monétaire du dollar, qui lui permet de vivre à crédit.
Ouais.
Et l'armée. Il fut un temps où la défense nationale américaine, c'était 50% des dépenses militaires mondiales. C'est descendu à 40% parce que maintenant, tout le monde commence à
réarmer.
Mais 40%, c'est gigantesque. Et je pars du principe que jamais dans l'histoire de l'humanité, depuis la plus haute antiquité, depuis la plus longue mémoire de l'humanité, jamais, on a vu une réorganisation majeure du monde s'opérer sans la guerre.
Sans la guerre.
Le général de Gaulle disait « l'épée est l'axe du monde ».
L'épée est l'axe du monde.
Ben, c'est toujours vrai. De plus en plus vrai, même. Et aujourd'hui, il y a à nouveau en cours une réorganisation profonde du monde.
Ça, c'est ce que vous écrivez aussi dans ce dernier livre, dont je rappelle qu'il est aux éditions Jean-Cyril Godefroy, au cœur de la Troisième Guerre mondiale, Laurent-Arthur Duplessis.
Et effectivement, l'Empire américain voit de plus en plus son privilège monétaire du dollar commencer à être battu en brèche, puisqu'en effet, voilà que l'Arabie saoudite fournit du pétrole à la Chine payé en yuan, le yuan converti en or, on retrouve l'or. L'or dont Pékin, Moscou notamment, et d'autres, comme par exemple New Delhi, etc., ont fait provision.
Ils font actuellement provision d'or. Ça,
depuis c'est plusieurs années, depuis pas mal d'années, le plus discrètement possible pour pas trop doper le cours de l'or de manière à pas le payer trop cher, ça passait notamment pour Pékin, ça passait par la place financière de Hong Kong à une certaine époque, etc. Mmh. De manière à faire face à ce qui semble, dans cette école de pensée autrichienne, être l'inéluctable aboutissement de ces déréliction financière. C'est une grande crise monétaire internationale, c'est-à-dire à un moment donné, le crash des grandes monnaies. Alors, pour l'instant, ce n'est pas encore le cas, mais vous savez, ça c'est un peu comme le recul des falaises côtières. La mer bat les falaises, il se passe rien pendant longtemps, puis tout d'un coup, il y a un écroulement.
Écroulement d'un coup.
Et c'est le fameux signe noir dont parle un penseur dénommé Nassim Taleb, libano-américain. Qu'est-ce que c'est le signe noir? C'est l'événement très 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 rare, mais de dimension...
Peut-être fatal.
Dimension, disons, apocalyptique.
Oui.
Apocalypse, en grec, ça veut dire crise et ça veut dire renouveau.
Et dévoilement.
Alors effectivement, la réorganisation du monde en cours n'échappera pas à cette règle qui fait qu'aucune mutation d'importance mondiale peut s'opérer de manière irénique, sans guerre, par des compromis aimables et gentils, où l'un cède le pas à l'autre, dans un climat de grande courtoisie, etc. Non. On voit bien que les États-Unis ont une cible numéro un actuellement, c'est la Chine. On voit bien que dans l'Indo...
Donc pour vous, c'est la Chine, la cible numéro un, c'est pas la Russie.
Non. Alors les Américains s'imaginaient que la Russie, ils allaient... la faire tomber facilement.
Ouais.
Ils s'étaient imaginé que ces pauvres Russes qui souffrent d'indigence intellectuelle et d'un esprit de désorganisation, voire de paresse, ne seraient pas à la hauteur. C'est un peu un travers.
On avait Bruno Le Maire en France qui pensait la même chose aussi.
Il avait prédit l'écroulement de l'économie russe sous le coup des sanctions.
Merci.
Et en plus, on a une classe dirigeante occidentale qui prend au pied de la lettre les chiffres dilatés de produits intérieurs bruts américains, européens, etc., n'ayant pas bien compris que gonfler un PIB parce qu'il y a des factures de médecins, des surfacturations de médecins ou de cabinets d'avocats, etc., c'est en réalité gonfler un PIB à l'hélium. Le PIB russe paraît moins reluisant, mais il est fait de métaux ferreux et non ferreux, de production industrielle, de production agricole maintenant, qui est redynamisée, etc. C'est-à-dire de solide. Et puisque ces Russes avaient un PIB qui, malgré leurs 17 millions de kilomètres carrés, correspondait à celui de l'Espagne ou de l'Italie...
C'est ce qu'on nous disait.
Ouais, ils allaient s'écrouler, hein. Parce qu'en plus, ils aiment trop la vodka aussi. Donc, et grande surprise, ils ne s'écroulent pas. Le régime de Poutine ne s'écroule pas. Et l'armée russe est en train de gagner la guerre actuellement. Alors du coup, Washington voit ça comme un chewing-gum qui colle à la semelle.
Ouais.
Ça devient encombrant, ça devient désagréable. Donc Washington commence à vouloir des négociations. Pour l'instant, coupe les vivres à l'Ukraine. Et effectivement, Washington émet de plus en plus le message que Obama avait commencé à diffuser en son temps, c'est-à-dire que le centre d'intérêt américain, c'est l'Indo-Pacifique, et la Chine, donc. Et effectivement, du même coup, on voit que Washington délègue aux Européens la tâche précieuse de verser du sang européens sur les champs de bataille, car après avoir voulu que l'Ukraine se batte jusqu'à la dernière goutte de sang, il semblerait que Washington veuille bien que maintenant les Français, les Allemands, etc., contribuent à verser leur sang aussi.
Et voilà, donc le proxy continue, mais il se rapproche de plus en plus.
Et effectivement, pendant que nous voyons la scène ukraino-russe, qui est dramatique, parce qu'en plus, ces pertes humaines...
C'est terrible.
C'est atroce, c'est tragique. Ces jeunes gars, pas si jeunes, puisque la moyenne d'âge, c'est 43 ans pour l'armée ukrainienne, reviennent avec une jambe en moins, avec un traumatisme crânien qui leur laisse des céphalées insupportables pour le reste de leur vie, ou qui ont des chocs post-traumatiques, où ils se retrouvent pratiquement pelotonnés sous une table dès qu'ils entendent une déflagration, etc. Parce que c'est ça, hein, le revers de la médaille de tout ça.
C'est de la guerre. Il n'y a pas que les morts, en effet.
Voilà, il y a les morts et puis il y a les blessés handicapés à vie.
C'est une génération complète, de toute façon, voire deux, totalement anéantis.
Ça nous rappelle 1918, quand il y a eu 1,5 million de... 14-18, 1,5 million de morts dans nos rangs.
Est-ce que c'est pas ça leur objectif, finalement? Est-ce que c'est vraiment de gagner la guerre? On dit d'un côté, les Russes font une guerre d'attrition. Et de l'autre côté, on est en train de saper, finalement, au sein des peuples européens, parmi certainement les derniers qui pouvaient encore assumer la guerre. Et d'ailleurs, la preuve, ils la font. Alors que nous, très honnêtement, à part quelques centaines de militaires qui étaient plus habitués à l'Afrique, qu'à ce qui pourrait voir être une guerre de haute intensité, on est incapable aujourd'hui de faire la guerre, si ce n'est avec des missiles nucléaires. Mais à part ça...
Oui, alors effectivement, pour l'instant, les États-Unis sont les grands gagnants. En effet, malgré tout, le peuple russe verse son sang, et beaucoup de sang quand même, dans ce conflit. Ce qui est une forme d'attrition démographique. Alors que la pyramide démographique russe est déjà pas fameuse. Non. Et donc, aller perdre des jeunes hommes ou les voir revenir diminuer sur un champ de bataille, c'est pas bon pour la Russie. Et d'autre part, effectivement, pour les États-Unis, le bénéfice économique est considérable. Ils ont saboté les Nord Stream, parce qu'on sait bien que c'est eux qui ont saboté les Nord Stream.
Bien sûr, Il n'y a pas besoin de revenir dessus, tellement c'est évident.
C'est évident.
Donc ça a complètement mis sur le flanc l'économie allemande.
Allemande, qui est quasiment, qui est techniquement même, qui entre en récession. Alors, qui était tout de même le pilier central de l'économie européenne, parce qu'il y a un effet domino. L'économie française, traditionnellement, fait 40% de ses exportations sur le marché allemand. Donc, à partir du moment où l'économie allemande se dévitalise, c'est l'économie de la plupart des pays d'Europe qui se dévitalise. Et cette économie allemande souffre du prix de l'énergie qui a beaucoup augmenté. Et puis alors, cette économie allemande souffre du déménagement de plus en plus évident d'un certain nombre d'usines qui quittent le territoire allemand pour aller aux États-Unis. Pourquoi aux États-Unis? Parce que l'énergie est trois fois moins chère, puisque le gaz de schiste américain est vendu trois fois moins cher sur le sol américain qu'il n'est vendu aux Européens. Un gaz liquéfié qu'il faut refroidir et puis réchauffer à l'arrivée, enfin tout ça est hors de prix. Et d'autre part, avec l'Inflation Act, le gouvernement Biden a offert des avantages fiscaux absolument énormes aux industriels étrangers qui veulent bien venir s'installer sur le sol américain. Donc il y a là toutes les bonnes raisons pour beaucoup d'industriels allemands de fermer leurs usines en Allemagne et les rouvrir aux États-Unis. Donc, c'est en quelque sorte pour les États-Unis l'occasion
tout bénéfice
de sucer le sang économique européen comme une lamproie suce le sang de
et ce pour prendre des forces pour après avoir à scoltiner, j'imagine, avec la Chine, car c'est l'acte 2, il est bien là.
Et voilà. Et du coup, ça participe à une certaine réindustrialisation, effectivement, du sol américain.
Ouais.
Un certain renouveau industriel américain, hein. Qui, en plus, est stimulé par, un renouveau du keynésianisme. Pourquoi? Parce qu'en réalité, doper les dépenses militaires, parce que là, le budget de la défense américain, il taquine les 9 000 milliards.
9 000 milliards.
Voilà. Et c'est exactement ce qu'avait fait le docteur Schacht, le ministre de l'économie d'Hitler, qui avait retiré l'Allemagne du gouffre économique lié à la crise de 1929 en dopant l'industrie militaire.
Par le keynésianisme.
Le keynésianisme, c'est du keynésianisme à l'état pur, ça. Et vers 1937, le docteur Schacht dit à Hitler, bon, Maintenant, le réarmement, l'industrie militaire, on peut mettre lever le pied, parce que ça y est, l'économie est repartie, elle vit sa vie. On n'a plus besoin de faire du réarmement outrance. Là, évidemment, on se fait virer, parce que le but d'Hitler, c'était pas de vivre paisiblement en bon père de famille, si je puis dire. C'était de faire la guerre. Donc là, il n'était plus d'accord. Il fallait continuer à doper l'industrie militaire. Mais il faut se souvenir aussi qu'en 1937, l'économie américaine s'essouffle. Elle a bénéficié entre 1933 et 1936 à peu près des effets bénéfiques du New Deal de Roosevelt,
oui,
qui était aussi un keynésianisme. Investissement de l'État dans les grands travaux, les barrages, etc. Et puis en 1937, le chômage remonte, ça s'essouffle, et ça prend une allure inquiétante. Mais alors, aux bénédictions, voilà que la France et le Royaume-Uni se réveillent, commencent à comprendre qu'Hitler est un danger, et commencent à revivifier leur industrie d'armement, tombée en quenouille après 1918. Et pour financer cela, et assurer cela, Paris et Londres payent en métal or des commandes d'armes adressées à l'industrie militaire américaine, ce que l'on a appelé le cash and carry, c'est-à-dire payer cash et emporter. Et là, l'industrie américaine a commencé à reprendre des couleurs. Toujours selon le schéma du docteur Church, on peut dire. L'emploi a commencé à remonter. La Banque centrale américaine a stocké à nouveau, comme en 14-18 d'ailleurs, du métal or, de l'or métal, oui, et a augmenté ses réserves d'or considérablement. Et ces phénomènes se sont accentués avec l'entrée en guerre des États-Unis en 1941. Ou alors là, les hommes étaient sous l'uniforme, les femmes étaient dans les usines, le plein emploi était à 100%, peut-on dire, et où la société de consommation a même commencé à naître pendant la Deuxième Guerre mondiale, parce que les niveaux de richesse augmentaient très très vite aux États-Unis, et c'est ainsi que les boys, les GIs, arrivaient avec les banilons, pour séduire les jolies filles et des choses comme ça. C'était déjà les prémices de la société de consommation. Et là, eh ben, que voit-on ? La guerre apparaît de plus en plus à nouveau comme un remède économique.
Inéluctable et comme un remède économique en 2024.
Oui, et oui, parce qu'au fond... Et en Europe, quand on entend tous les jours... Maintenant, l'Europe, qu'il faut, c'est une économie de guerre.
Et on fêtait les 80 ans du débarquement le 6 juin.
Voilà. Alors, économie de guerre, pour l'instant, n'y est ni en Europe ni aux États-Unis, mais les dépenses militaires augmentent sensiblement. Économie de guerre, c'est encore autre chose, parce que ça veut dire, là, à ce moment-là, que tout est tourné vers la guerre, et les dépenses militaires atteignent des taux encore bien, bien plus importants. Les États-Unis ont été en économie de guerre à partir de 1941, et le Royaume-Uni aussi, à partir de 1939. Fort heureusement, nous ne sommes pas encore en guerre directement avec les Russes. Nous avons toujours une ambassade à Moscou. Mais enfin, je constate une chose aussi, c'est que si on tient des propos conciliants, prenant une action diplomatique intelligente vis-à-vis de Moscou, on est déjà gratifié du beau titre de traître.
Oui, de traître, de poutinolâtre.
Oui.
Et même de traître, comme vous dites.
De traître.
L'objection qu'on aurait envie de vous faire par rapport à cette Troisième Guerre mondiale, depuis le début, c'est de dire, oui, mais non, Laurent-Arthur Duplessis, parce qu'il y a l'arme nucléaire, un peu le catéchon des pères de l'Église qui considéraient qu'il y avait toujours quelque chose qui retenait l'avènement du pire. Alors, et peut-être l'arme nucléaire. Vous, je sais, Laurent-Arthur Duplessis, que vous avez une autre lecture des choses en la matière.
Il faut se souvenir qu'au Moyen-Âge, le pape avait condamné l'arbalète. Parce qu'effectivement, l'arbalète, ça portait beaucoup plus loin que l'arc.
Ouais.
Et avec une puissance d'impact infiniment plus forte.
Ouais.
Richard Cœur de Lion a perdu la vie parce qu'il a été touché par un trait d'arbalète, c'est-à-dire la flèche, tiré par un gars qui était sur les remparts d'une forteresse au loin. Et Richard Cœur de Lion caracolait avec ses lieutenants et se croyait parfaitement à l'abri, tellement c'était loin. Le tireur, il a eu un coup de peau qu'effectivement, il a réussi à faire mouche, mais il a fallu que la flèche arrive jusque-là parce que justement, l'arbalète, c'est très puissant. Mmh. Et de même, aujourd'hui, alors la bombe atomique. Mmh. On dit, ah ben non, non, non. Mais il faut voir une chose. D'abord, à la fin de 1918, le char est apparu, qui était une arme novatrice qui avait permis la rupture des lignes, oui, avec les renforts d'un million d'Américains, mais le char a joué un rôle énorme. Français, Renault, invention française. D'ailleurs, c'était le maréchal Pétain qui avait voulu ça. Mmh. Ensuite, la Deuxième Guerre mondiale se termine. Alors, en plus, le char et l'avion, enfin, 1918, l'avion de reconnaissance. C'était pas encore l'avion de bombardement, mais c'était l'avion de reconnaissance déjà. C'était déjà un binôme char. En 39-45, le binôme char-avion domine la scène, mais 45 se termine par Hiroshima Nagasaki, la bombe atomique. Oui. Et à chaque fois, la guerre suivante, la guerre mondiale suivante...
Débute par ce avec comment elle avait fini, c'est ça que vous êtes en train de nous dire.
Exactement.
Là, vous nous faites...
Et alors, il y a
avoir froid dans le dos, là.
Oui, et une deuxième chose, c'est bien beau les axiomes doctrinaux... Non, on passera. La dissuasion fait qu'on n'utilisera jamais la bombe atomique parce que ce serait trop affreux, etc. Mais ça, ce sont des axiomes du temps de paix. Ce sont des axiomes formulés dans l'ambiance feutrée des cabinets de travail. Mais dans le feu de la guerre, si une armée conventionnelle se trouve dans les cordes,
oui. On l'avait craint avec la Crimée. Si la contre-attaque, oui, avait porté ses fruits, les Ukrainiens, ils seraient allés menacer la Crimée. Et là, quelle aurait pu être la réaction des Russes?
Mais alors, ça ne fut pas le cas. Il paraît qu'il y a eu des grosses inquiétudes à ce sujet en Occident. Et peut-être était-elle justifiée. Parce qu'en effet, dans le feu de l'action, la tentation... de recourir à une arme nucléaire tactique.
Alors, tactique, on dit bien tactique. Donc
c'est aspersion locale.
Du petit format pour frapper des troupes militaires et non des missiles anticités, où là on est sur du stratégique.
C'est exactement. Bien ça.
Donc on est sur même pas un kilotonne, 0,5 kilotonne à 20, 15, 20 kilotonnes, moins que Hiroshima même.
Oui. Alors, De Gaulle, effectivement, De Gaulle, lui, en son temps, dans les années 60, disait « Non, non, moi, je fais pas de distinguo entre les tactiques et les stratégies. C'est nucléaire ou pas nucléaire. » Mais je crois que c'est dépassé.
C'est dépassé.
C'est un dogme dépassé. D'ailleurs, si De Gaulle était parmi nous aujourd'hui, peut-être qu'il dirait la même chose. Il dirait « Non, là, c'est... »
Déjà, l'OTAN n'a pas rechigné à utiliser de l'uranium appauvri,
oui,
sur les théâtres d'opération de la Crimée.
Il laisse des séquelles
encore,
biologiques terribles, des séquelles médicales terribles, y compris aux soldats américains même.
Ah oui.
Aussi. Et bombe nucléaire tactique. Et d'autre part, il y a un autre facteur, c'est qu'on voit maintenant se développer une prolifération nucléaire. Parce qu'en effet, il y a déjà 9 puissances dotées. Il y a les 5 puissances du Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais il y a aussi, alors Israël, donc tout le monde sait qu'elle a la bombe atomique, il y a l'Inde, le Pakistan, la Corée du Nord. 9. Mais il y a un dixième pays qui est au seuil nucléaire, c'est l'Iran.
Oui. Dont on parlera en fin d'entretien, parce que actuellement il y a
une grosse actualité qui a enrichi à 90%. Ouais. 93% pour être très précis, son uranium pour faire 3 ou 4 bombes déjà. Et encore, on dit, parce que l'AIEA ne sait pas tout, l'AIEA depuis longtemps n'a plus accès à tout, et en réalité, il y a certainement une partie cachée que l'AIEA ne connaît pas.
Vous pensez que l'Iran pourrait déjà avoir,
oui,
une arme nucléaire ?
Oui, je crois que l'Iran...
Prêt à l'emploi ?
Oui, oui, non. Alors, je crois que l'Iran, pour l'instant, se retient de faire son premier essai nucléaire. Parce qu'effectivement, en ce cas-là, tout le monde serait au courant. Et ce que redoute l'Iran, c'est qu'Israël dise « bon ben, on bombarde ».
Pas d'essai nucléaire, mais peut-être des armes prêtes à l'emploi.
Alors, ce qu'il y a, c'est que lorsqu'on est au seuil nucléaire, on est obligé de faire un essai.
Ouais.
On est obligé de faire un essai. Et donc, on ne peut pas faire l'économie d'un essai. Alors, même souterrain, bien sûr, maintenant, etc. Mais
ça, avec, on peut le repérer, toujours.
Avec les enregistrements sismiques, on le sait, on le repère. Et Téhéran sait qu'à ce moment-là, Israël va déclencher des bombardements et vouloir entraîner ainsi, à sa suite, les États-Unis pour bombarder l'Iran. Donc, pour l'instant, ils se retiennent. Mais ils continuent à enrichir. L'AIEA multiplie les constats alarmistes d'un rapport trimestriel à l'autre. Et l'AIEA se plaint de ne plus avoir accès, d'ailleurs, à beaucoup d'endroits, et ainsi de suite. Et notamment le fameux site de Fordo, qui est à 100 mètres sous terre, qui a été élaboré par les Iraniens dans les années 80, et qui semble à peu près hors d'atteinte des missiles les plus performants.
Ah oui.
Parce qu'il est très, très profond dans la montagne. Il est sous d'énormes couches de béton, etc. Et il semblerait que même les explosifs et les missiles les plus performants devraient avoir du mal à le détruire, ce site de Fordo. Et là se passe énormément d'enrichissement d'uranium à 90%. Et il faut savoir qu'en plus, les scientifiques iraniens sont brillantissimes.
Hein. Oui, ils investissent d'ailleurs énormément. Hein.
Oui.
On en parlait dernièrement.
Énormément.
Dans des ingénieurs, des mathématiciens.
Oui, et il est vrai que l'Iran, qui a une tradition culturelle quadrimillénaire, qui a fourni de très brillantes civilisations au monde, l'Iran est un pays très intellectualisé. C'est un pays qui cultive le culte de l'intelligence, de la compétence, de l'excellence, et qui a une cohorte de scientifiques de très haut niveau. Et effectivement, en plus, l'Iran a bénéficié des transferts de technologies du Pakistan, du temps où un génie de la recherche nucléaire, Abder Khan, qui était vraiment un grand, grand savant pakistanais, qui avait été le père de la bombe atomique pakistanaise, qu'on surnomme la bombe islamique. Abder Khan avait donné des secrets nucléaires à la Corée du Nord, à l'Iran.
On a vu le résultat pour la Corée du Nord.
Voilà. Et à Kadhafi. Alors Kadhafi
n'a pas eu le temps.
N'a pas eu le temps. Puis surtout, il avait renoncé en 84 ouais. à l'industrie nucléaire.
D'ailleurs, ça ne lui a pas porté chance, ce qui fait réfléchir, à mon avis, un certain nombre de chefs d'État aujourd'hui qui seraient dans le collimateur des États-Unis et de l'Empire du Bien.
Kadhafi et Saddam Hussein, tous les deux, avaient la malchance de ne pas posséder d'arsenal nucléaire.
C'est ce qu'un certain nombre de chefs d'État doivent se dire aujourd'hui. Là où on a peut-être pas d'abord totalement fini sur le nucléaire tactique qui pourrait engendrer du nucléaire stratégique avant de vous poser une autre question toujours
Alors,
sur le
c'est
nucléaire.
Important le nucléaire, c'est important parce que donc il y a cet axiome que je crois dépassé comme quoi il est impossible qu'il y ait une guerre mondiale en gros parce que elle dresserait les unes contre les autres des puissances atomiques, et donc ça ne peut pas se produire. Ça, c'est l'axiome d'aujourd'hui, tout le monde tombe en arrêt devant cet axiome. Et donc, comme je disais...
Ce serait un parapluie, en plus, totalement... c'est une véritable martingale. C'est quelque chose, de toute façon, quand vous avez ça, vous n'avez plus rien à craindre. On se demande même si Macron, lorsqu'il dit qu'il n'a pas de limite, peut se dire, je peux même envoyer des hommes à Odessa, en rideau devant les troupes russes, si l'armée ukrainienne venait à s'effondrer, et avec le parapluie nucléaire dont je dispose, je n'ai rien à craindre. Et ça, c'est folie.
C'est totalement folie. Et je dois dire que je partage tout à fait les alarmes de gens comme Henri Guénaud, par exemple, qui ne cesse de tirer, justement, la sonnette d'alarme. De gens même comme Hubert Védrine, qui sont sur la même ligne. Et il est certain que dans la mesure où des armes tactiques peuvent exploser sur les champs de bataille, Bon, effectivement, il y a un risque d'escalade du tactique au stratégique. Mais je crois quand même que la ligne, je dirais, la frontière d'inhibition, si je peux dire, oui. va se déplacer à l'intérieur du nucléaire. C'est-à-dire que des acteurs à venir de la Troisième Guerre mondiale vont s'autoriser du tactique dans des circonstances où ils sont dans les cornes, mais vont s'interdire de passer au stratégique.
Ouais, l'anticité.
Parce que là, l'anticité, ça veut dire que tout le monde meurt, ouais. et eux et leurs ennemis. Donc, je crois que l'instinct de survie, l'inhibition de survie, le scrupule de survie, ça va être la frontière entre le tactique et le stratégique. Mais pas entre le conventionnel et le tactique. Je crois que c'est là que va se jouer...
Et pourtant, l'utilisation, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, du nucléaire, a été stratégique. Il semblerait, quand on regarde les dernières informations sur le sujet, qu'on avait un petit peu trompé Truman, hein, ceci dit, et qu'on lui avait fait croire qu'on allait frapper des bases militaires et non des villes.
Oui, oui. Mais néanmoins, effectivement, c'était la première fois qu'on voyait il y avait eu l'explosion atomique d'essai dans le désert du Nouveau-Mexique, mais enfin, on ne connaissait pas encore très très bien les explosions atomiques.
On ne connaissait pas les effets des ravageurs.
Oui, parce que même, par exemple, quand les Américains ont fait des essais atomiques dans le Pacifique, ils ne connaissaient pas encore assez bien la dangerosité de la chose, puisqu'ils avaient laissé des militaires américains trop près des explosions. Il y a eu des dégâts, il y a eu des contaminations. Ils ne s'étaient pas rendu compte qu'il fallait se tenir beaucoup plus loin. Donc, effectivement, il a fallu découvrir la réalité de cette dangerosité-là, effectivement.
C'est sûr. Alors, donc, il y a ce risque d'une ligne entre le tactique et le stratégique.
Alors, plutôt un risque ou une chance, parce que...
Oui, ou une chance. Oui, excusez-moi, qu'est-ce que je dis ? Une chance, en tout cas. Absolument. Espérons-le.
Sinon, on va vous traiter de docteur Fonlamour.
Alors là, pour le coup, oui, absolument. On revient sur le risque nucléaire ailleurs, parce que c'est pas nécessairement la première bombe nucléaire. Ben, on vient d'évoquer le Moyen-Orient. Ce n'est pas nécessairement sur un théâtre européen qu'il y aurait à nouveau, peut-être, mais qu'il y aurait à nouveau un affrontement nucléaire. Et là, on va en arriver à un point qui est important aussi de ce livre, au cœur de la Troisième Guerre mondiale, aux éditions Jean-Cyril Godefroy, Laurent-Arthur Duplessis. C'est décoiffant aussi. Vous avez une analyse qui est un peu différente de ce qu'on peut entendre sur les médias alternatifs concernant le Sud global. C'est-à-dire que le Sud, on a l'impression aujourd'hui qu'évidemment vous avez l'empire du bien, l'Occident face à un Sud global représenté par l'ensemble des BRICS et que tout ce beau monde au niveau des BRICS, au niveau du Sud global, serait totalement uni face justement à l'empire occidental. Et vous expliquez parfaitement dans votre dernier ouvrage que c'est absolument pas le cas et qu'il y a, et vous allez pouvoir en parler, des clivages au sein de ce Sud global et que ces clivages sont tellement importants qu'on pourrait parfaitement envisager que la première guerre nucléaire ouvrant le bal, si j'ose dire, de la Troisième Guerre mondiale, c'est au sein même du Sud global que cela pourrait se dérouler.
Alors effectivement, c'est vrai que l'Occident relève de nombreuses critiques morales, politiques, etc. L'Occident, dans l'histoire, a été à la fois bienfaiteur et voyou. L'Occident était quand même très bienfaiteur. En répandant, et moi je l'ai vécu en Algérie, dans le bled où je suis né, où j'ai grandi jusqu'à l'âge de 10 ans, en répandant les vaccinations, c'était pas le Covid à l'époque, en répandant la médecine, en répandant l'hygiène, etc. Et puis en installant des infrastructures, des adductions d'eau pour avoir de l'eau potable non contaminante, pour avoir de l'énergie électrique, etc. Ça a été un Occident bienfaiteur.
Oui, Mais il a été voyou aussi.
Il a été voyou aussi. Il est vrai que la conquête de l'Algérie par Bugeaud, ça n'a pas été tendre, hein, notamment, par exemple. Il est vrai qu'il y avait parfois des expropriations, toujours en Algérie, par exemple, dans le 19e siècle, il y a eu des expropriations. Donc, Occident voyou. Mais l'Occident voyou, c'est aussi quand le secrétaire d'État, Colin Powell, brandit une fiole d'un liquide jaunâtre devant l'Assemblée générale des Nations Unies.
C'est de l'anthrax.
En expliquant que c'est de l'anthrax, alors que je crois que c'était du liquide vaisselle.
Et qu'il devait bien le savoir.
Que ça a permis de légitimer, entre guillemets, l'attaque de l'Irak, la deuxième guerre du Golfe.
Qui a détruit complètement l'Irak, qui ne s'en est d'ailleurs toujours pas remis.
Voilà.
Pas de démocratie, mais par contre une guerre civile qui dure depuis des temps maintenant
immémoriaux. Et un coup de boost à l'islamisme, au djihadisme, qui s'est nourri, bien que, évidemment, l'islamisme soit un mouvement de fond démarré à la fin du XIXe siècle, lorsque tout un mouvement intellectuel dans le monde musulman a commencé à théoriser la nécessaire réaction, à ses yeux, aux valeurs occidentales, c'est-à-dire européennes surtout à l'époque, puisque c'était les puissances coloniales européennes à l'époque qui...
Absolument.
Et donc il y a eu un mouvement intellectuel qui s'est développé à ce moment-là, qui tournait le dos à la fascination pour l'Europe qui avait été, par exemple, celle du calife égyptien, mais Met Ali, qui était un grand ami de Ferdinand de Lesseps, etc. Cette fascination pour l'Europe, là, ces nouveaux intellectuels lui tournaient le dos et disaient « il faut revenir aux valeurs de l'islam ». Néanmoins, pour autant, il ne répudiait pas la science. Il voulait la marier à l'islam, ce qui n'était pas la même chose. Et ça avait conduit à la création en 1928 par Al-Banna, le grand-père de Tariq Ramadan, des frères musulmans, en 1928. À l'époque, l'État d'Israël n'existait pas encore. Il est né en 1947. Mais Al-Banna se dressait contre le colonialisme des Européens et contre l'exportation par eux de leurs valeurs européennes dans le monde musulman.
Ouais.
Et d'ailleurs, des gens comme Nasser ou comme Assad, père et fils,
et fils.
Se sont insurgés, et comme Saddam Hussein.
Oui, ben c'est les révolutions basses.
Le bassisme, qui comportait en son sein des chrétiens. Le ministre du pétrole de Saddam Hussein était un chrétien. Et le bassisme était aux antipodes de cet islamisme. Mais il est certain que cette vague de fond qui vient des profondeurs du monde musulman et qui est un phénomène culturel qui correspond bien à ce que disait Samuel Huntington, la réindigénisation du monde.
Ouais.
Donc les grandes aires de civilisation retournent à leurs fondamentaux. L'hindouisme en Inde, l'islamisme dans le monde musulman, le confucianisme en Chine, peut-être le christianisme en Occident.
Mais ces trois-là, en tout cas, dont vous parlez, islamisme, hindouisme, confucianisme, ce ne sont pas, dans le sud global, du tout c'est pas nécessairement compatible, loin s'en faut.
Alors, j'en veux pour preuve ce qui se passe en Inde. L'Inde, 1,4 milliard d'habitants, 180 millions de musulmans. Il y a des tensions intercommunautaires entre musulmans et hindous de plus en plus fortes. L'Hindutva, mise en avant par Narendra Modi, le premier ministre indien, c'est la doctrine qui prône le retour à un hindouisme pur et dur. Je dirais à un identitarisme dur.
Et très hostile, évidemment.
Aux musulmans.
Aux musulmans. D'autres... Et le Pakistan est à côté.
Pakistan, ça veut dire pays des purs. Le Pakistan est un chaudron islamiste dont on n'a pas idée ici parce qu'on n'en parle quasiment jamais.
Qui semble s'éloigner de plus en plus d'ailleurs de la tutelle américaine.
Oui, et se rapprocher des Chinois qui ont développé les relations économiques et les infrastructures de communication avec le Pakistan.
Et qui ne sont pas les Chinois les meilleurs amis des Indiens. Voilà. Un beau triangle infernal.
Et l'on voit justement se mettre en ordre de bataille le conflit de la Troisième Guerre mondiale, c'est-à-dire que l'Inde se rapproche des États-Unis, ouais, de l'Australie, du Japon et on des
voit,
Philippines.
On voit pourquoi Macron, le petit commis américain, est allé dernièrement en Inde.
Voilà. Et récemment, l'Inde a lié des accords avec Washington et le Pentagone pour développer une collaboration et une interconnexion entre la marine indienne et la marine américaine, avec mise à disposition pour la marine américaine des ports de l'Inde pour la maintenance, la réparation, le refioulage des bateaux américains. Et d'autre part, se développent des manœuvres navales conjointes justement entre l'Inde, le Japon, l'Australie, les États-Unis et maintenant les Philippines, qui entrent dans ce circuit de manière très active, puisque en effet, les gardes-côtes chinois multiplient les actes brutaux contre les pêcheurs et les gardes-côtes philippins jusqu'à plus de 1000 km des côtes chinoises, car la Chine revendique à peu près la totalité des îles de mer de Chine.
On rappelle que dans ce que vous venez de définir, vous avez quatre puissances nucléaires, les États-Unis, la Chine, mais aussi l'Inde et le Pakistan.
Voilà. Alors, on ne peut pas imaginer que dans la Troisième Guerre mondiale, l'Inde et le Pakistan seront dans le même camp, ça c'est sûr.
Improbable.
On a frisé en 2009 une catastrophe, puisqu'en 2009, des talibans pakistanais, des islamistes purs et durs, avaient tenu en échec l'armée gouvernementale et s'étaient approchés notamment d'un centre nucléaire important du Pakistan. Et là, New Delhi avait dit au Pakistan, bon, mettez bon ordre à tout ça, sinon on va intervenir. New Delhi craignait que des extrémistes mettent la main sur des arsenaux nucléaires. Alors,
ce qu'ils ont fait, ce que le Pakistan a fait.
Voilà. Et alors, en plus, il faut voir que le Pakistan, l'ISI, le service de renseignement pakistanais, est quand même très, très islamisé. L'armée pakistanaise aussi. Les partis politiques islamistes au Pakistan sont très puissants et très virulents. Et les persécutions religieuses au Pakistan ne font que croître et embellir, notamment contre les chrétiens.
Bah, évidemment.
Et le gouvernement pakistanais, pour peu qu'il soit entre les mains de gens modérés, de toute façon est impuissant à empêcher ces phénomènes, complètement. Et donc l'Inde regarde ça avec beaucoup d'inquiétude. Et d'autre part, l'Inde multiplie donc les manœuvres navales dans le cadre de des alliances qui se développent et de plus en plus activement maintenant sous l'égide américaine dans l'Indo-Pacifique. Alors là où la France est concernée dans l'Indo-Pacifique, c'est que nous sommes aussi une nation du Pacifique.
Ah oui.
On l'oublie.
Mais et pas des moindres.
Nous avons le deuxième domaine maritime du monde.
Absolument.
Et notamment, entre autres, grâce à nos possessions dans l'Indo-Pacifique. Or, nous avons la Nouvelle-Calédonie, qui est un magnifique bloc de nickel, ce qui est une très grande richesse économique pour la France, le nickel, et sur lequel lorgne Pékin. Hein. Nous avons notre présence en Polynésie, notamment. Nous sommes une puissance de l'Indo-Pacifique, le drame étant que notre marine est exsangue.
C'est ça.
Pour contrôler l'Indo-Pacifique. Mais nous patrouillons de temps en temps, dans la mer de Chine. Et ça agace les Chinois. Et puis, il semblerait que les Japonais, eux-mêmes, et c'est pas qu'il semblerait, c'est que les Japonais se réarment à toute allure, veulent porter leur budget de la défense à 2% du PIB, et s'autorise maintenant, avec les vifs encouragements de Washington, à développer un armement qui ne soit plus uniquement défensif, entre guillemets, mais offensif. sachant que le distinguo est parfois un peu artificiel. Hein. Quand on tire, on tire, hein, mais bon. Et les Japonais, donc, sont en train de développer leur industrie d'armement à toute allure, et les Japonais considèrent qu'un jour, il faudra affronter une grande explication dans l'Indo-Pacifique avec la Chine. Alors, les Japonais, les Australiens qui voulaient nous acheter 4 sous-marins à propulsion nucléaire, que les Américains les ont empêchés de les acheter.
Terrible humiliation pour la France. Ouais.
Non, alors, pardon, c'était pas à propulsion nucléaire, les nôtres, c'était à propulsion diesel.
Ouais. Bon.
Alors, les Américains, eux, disent non, nous, c'est à propulsion nucléaire. Mais sauf que, finalement, le marché en question est laborieux, il y a de grosses difficultés. Alors, c'est vrai,
à propulsion... Ils ne se sont fait livrer, jusqu'à présent, aucun sous-marin.
Aucun sous-marin. Alors, c'est vrai que la propulsion nucléaire, c'est parfait, on en a, nous, hein, à propulsion nucléaire. C'est silencieux, et on a une autonomie presque illimitée. C'est encore mieux que le diesel qui est plus bruyant et qui a moins d'autonomie, d'accord. Mais il vaut mieux avoir du diesel que rien du tout.
C'est ça.
Et là, ils n'ont rien du tout. Mais ils sont très inquiets, les Australiens, parce qu'ils ont beau avoir comme premier débouché de leur matière première la Chine. Néanmoins, ça ne les rassure pas. Ils voient que la Chine est tout de même de plus en plus impérieuse. Et notamment depuis l'arrivée au pouvoir en 2012 du président Xi Jinping, qui a quand même résolument relevé le gant américain, si on peut dire. Les États-Unis ont commencé sous Obama, mais ont beaucoup accentué sous Trump, une pression sur la Chine, son économie. Et Xi Jinping considère qu'il fallait relever le défi d'une manière en quelque sorte militaire.
Mais alors comme le monde est comme la Chine et le monde est dépendant de la Chine, comme vous l'avez dit à un moment donné, c'est la grande manufacture du monde. Moi, j'ai toujours pensé que c'était un peu la limite d'un affrontement entre la Chine et même l'Empire américain. En tout cas, vis-à-vis de l'Europe, on le voit, même pour un simple Doliprane. Un antalgique, nous ne pourrions pas en avoir s'il n'y avait pas la Chine. On voit qu'il y a actuellement des phénomènes de pénurie qui sont liés justement à un ralentissement de l'économie chinoise. Imaginez demain s'il y avait une guerre entre la Chine et les États-Unis. Nous sommes dépendants de la Chine aujourd'hui. Ce serait considérable, le marasme que cela provoque.
C'est vrai. Et alors il semblerait que justement, il y ait une prise de conscience à ce sujet qui fait que les États-Unis ont engagé un processus de découplage des deux économies, américaine et chinoise.
Et oui, et voilà. Et ça explique ce que vous disiez, là, la destruction de l'industrie allemande, le passage de cette industrie aux États-Unis.
Ils siphonnent, les Américains siphonnent l'industrie européenne à leur profit en l'installant sur leur territoire et essayent de diminuer les investissements américains en Chine. Donc, effectivement, cette montée des tensions américano-chinoises commence à influencer les décisions des investisseurs qui commencent à se retirer de Chine pour aller en Inde, au Vietnam, etc. Et effectivement, d'autre part, il y a le fait que le budget militaire chinois est en forte ascension. En plus, on n'en connaît pas vraiment les contours parce que il y a le budget officiel.
Oui.
Mais il y a en réalité tous les secteurs de l'économie qui travaillent.
Pour l'industrie de l'armement chinois.
Et les Chinois produisent chaque année l'équivalent en tonnage de la marine française. Donc, c'est dire que nos patrouilles dans le Pacifique font un peu grise mine. Et pourquoi tout ça? Xi Jinping militarise la société chinoise. Il la militarise parce qu'il pense qu'il va y avoir une explication militaire avec les États-Unis à un moment donné.
Et il n'a pas le choix, d'ailleurs, je pense, parce qu'aussi il y a une crise économique qui sévit, il y a cette pauvreté, et que pour un pouvoir soumis justement à ces risques de jacquerie, de révolte liée à la pauvreté, à nouveau, il y a cet intérêt à la guerre. C'est ça qui est le plus inquiétant quand vous décrivez cette troisième guerre mondiale qui vient et qui est déjà là, Laurent Arthur Duplessis, c'est que finalement, tout le monde, ou presque, a intérêt à la guerre aujourd'hui. Si ce n'est, et vous allez pouvoir réagir bien sûr là-dessus, si ce n'est, et ça c'est un élément fort aussi qu'on retrouve déjà dans votre livre de 2002, puisque vous le disiez déjà en 2002, si ce n'est justement ces pauvres, ces malheureux Européens dont vous dites qu'ils sont des herbivores qui vont être livrés à des carnassiers, à des prédateurs.
Et ça, voilà. C'est une image. Je vois la couverture du livre, effectivement. Et voyez le paragraphe qui est sous le titre, où justement, je dis que l'Europe, c'est l'herbivore livré aux prédateurs, etc. Alors aujourd'hui, cette expression d'herbivore fleurit. Mais à l'époque, personne ne voyait l'Europe comme...
comme un brave herbivore.
Alors je disais aussi que l'Europe était une église droit de l'hommiste. Voulant convertir le monde entier au droit de l'hommisme et finalement se condamnant à être une proie sans défense, livrée à toutes les convoitises et à toutes les hostilités.
Ce que l'on voit.
Et là, maintenant, on a des élites. Alors j'avais publié en 2012 un livre intitulé « De la crise à la guerre », sous-titre « La faillite des élites ». La faillite des élites, oui. On la voit. On la voit. Cette doxa qui inondait nos élites, on le voyait bien, ça, dans toutes les universités, les grandes écoles, etc. C'est en fait une doxa comtiste. Auguste Comte, le philosophe, qui avait...
Du scientisme.
Le scientisme qui disait que la rationalisation des choses et de la gestion des choses et des gens, troisième âge de l'humanité, l'âge dans lequel il pensait qu'on entrait à la fin du 19e siècle, allait installer la paix universelle, la démocratie universelle, la concorde universelle.
C'est Comte, c'est l'annonce de Comte et de Kant.
De Kant, 1997, vers la paix perpétuelle, à la suite de la publication en 1713 par... l'abbé de Saint-Pierre, je crois, d'une thématique analogue vers la paix perpétuelle. Ça a commencé au XVIIIe siècle, ça, oui. Surtout, et ça s'est développé au XIXe siècle avec Auguste Comte. Et en réalité, nos élites occidentales sont comtistes, sans le savoir, probablement, la plupart du temps, elles ne l'ont pas lu, mais en fait, c'est ça. Le doux commerce de Montesquieu, Montesquieu avait appelé ça
le doux commerce,
allait, par sa douceur même, installer une paix universelle.
Et en fait... Et qu'on se rend compte aujourd'hui combien le commerce est doux.
Voilà.
Il n'engendre aucune guerre.
Et dans cette même perspective, dans les années 1900, des bons esprits écrivaient que le Royaume-Uni et l'Allemagne ne pourraient jamais se faire la guerre, tellement les échanges commerciaux entre eux s'étaient développés depuis le lendemain de 1870.
Mais c'est ce qui répète ad nauseum, même là vous citiez les mains que les Attali, oui. Ça a toujours été le raisonnement. On boucle une boucle par rapport au Figmag et à ce qui était la pensée opposée à ce que vous étiez, mais c'est exactement ça. On m'a toujours répété aussi à Sciences Po, mais voilà. Le commerce, l'intrication commerciale, oui. Est un gage de paix.
Voilà. Et exactement, c'était la doxa de toutes les élites françaises, mais pas que françaises, hein, oui. Européennes, américaines, etc. Et puis, là, on voit que l'entrée dans l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, de la Chine en 2001, qui apparaissait à l'époque, alors pour le coup, comme le verrouillage parfait de la Pax Americana. Le géant chinois...
C'était la fin de l'histoire de Fukuyama, là,
tout était clos.
Plus d'affrontements Est-Ouest et l'entrée de la Chine dans l'OMS.
Fukuyama publie vers 1993, 2001, l'entrée de la Chine dans l'OMC, c'est-à-dire que ce géant chinois, usine du monde, en intégrant l'OMC, semblait intégrer le troupeau des soumis à l'Amérique.
Des herbivores.
les Chinois... aller faire de l'économie, de l'industrie, et se mettre dans la Pax Americana, et ne plus en sortir. À partir du moment où on avait les Chinois dans la Pax Americana, bon, ben c'était gagné, quoi. Après, quel autre pays allait défier cette Pax Americana? Aucun. Ce serait plus que des opérations de police, effectivement, voilà. Pour... c'est-à-dire qu'on avait...
Des opérations spéciales, déjà, à l'époque.
Voilà. Pour quelques trublions fanatisés.
Des voyous, les États voyous, ça inquiétait.
Voilà, de petits États voyous, etc. Et cette Pax Americana semblait être devenue l'horizon indépassable de l'humanité. avec son corollaire, la démocratisation de tous les pays. Et quand Xi Jinping arrive au pouvoir en 2012, très vite, il tourne le dos à la politique de Deng Xiaoping qui avait ouvert la Chine à partir de 1978. Et très vite, il dope les budgets militaires, il durcit l'autoritarisme du régime, il supprime toute collégialité dans les mécanismes de décision du Parti communiste chinois. Mmh. Il a évincé tous ses concurrents. Et récemment, il a même rabaissé le Premier ministre, qui avant avait encore une fonction exécutive un peu autonome, mmh. et qui, cette fois-ci, maintenant, n'a même pas eu le droit de faire une conférence de presse après une réunion du comité central, etc. Donc, il n'y a plus qu'un homme, c'est Xi Jinping, qui prend toutes les décisions.
C'est l'autocratie dans toute sa
C'est de... l'autocratie absolue. Et en 2002, dans la Troisième Guerre mondiale a commencé, je disais, alors qu'un an avant, la Chine était entrée dans l'OMC, je disais, la Chine finira par s'orienter vers une sorte d'autoritarisme, de fascisme militarisé, d'autoritarisme militarisé.
Vous l'aviez déjà, ça,
oui.
prévu ?
Oui, oui, ça, je le voyais. Ce sur quoi j'avais un point d'interrogation, c'est la question suivante. Dans quel camp sera la Russie ?
Ah bah oui, bah on pouvait se poser cette question. Jusqu'en 2007-2008, on pouvait se poser la question.
Poutine, à l'époque, en septembre 2002, quand je mettais le point final à ce texte, Poutine cherchait beaucoup à faire la maison commune prônée par Gorbatchev.
Totalement.
L'architecture de sécurité européo-russe prônée par Gorbatchev. Et d'ailleurs, Poutine, qui venait de Saint-Pétersbourg, ville ô combien européenne de Russie.
Totalement.
Poutine ne rêvait pas de Chine à l'époque, il rêvait d'Europe.
Oui, bien sûr.
Mais il rêvait d'Europe.
C'est une fenêtre sur l'Occident, Saint-Pétersbourg.
Et oui, par Pierre le Grand, au XVIIIe siècle, dans des marécages. Et d'ailleurs, on voit sur la carte comment Saint-Pétersbourg est presque sur le bord. Enfin, Saint-Pétersbourg se voulait voisine de l'Europe. Pierre le Grand, qui était venu visiter les chantiers navals de Hollande et qui s'était imprégné de la technologie hollandaise pour la marine, qui était fasciné par l'Europe, comme Catherine II,
oui,
aussi,
absolument.
D'origine allemande, elle. Et d'ailleurs, les familles des tsars étaient généralement composées souvent d'apports germaniques.
Et parler français, donc, c'est dire.
Et parler le français.
Alors.
Et il a bien fallu tout le poids de Washington pour empêcher ce rapprochement d'arriver à ses fins, jusqu'au moment où, en 2007, Poutine en a eu assez devant les mises en échec répétées de ses tentatives de rapprochement, et où il a dit, bon, maintenant, en 2007, il a dit, en gros, ça suffit. Bon, ben maintenant, je prends acte de ce que l'Occident ne veut pas de la Russie.
Et là, les ennuis ont commencé. Enfin, ils se sont accentués.
Voilà. Et là où il y a une tragédie effroyable, parce que cette guerre ukraino-russe est déjà une tragédie effroyable, mais il y en aura bien d'autres, hélas, c'est que les Européens, qui ne sont plus maîtres de leur destin depuis longtemps, et qui ont laissé leur destin s'échapper de leurs mains par volerie et par cupidité, et je dirais par une forme de stupidité qui est assez répandue dans les troupeaux. C'est-à-dire que, en réalité, et moi je l'ai bien vu dans le système universitaire, etc., cette espèce d'unanimité, d'unanimisme, autour de l'idée de paix universelle et de droit de l'homisme missionnaire, était à peu près partagé par 80%, 90% des enseignants, des étudiants.
Oui.
Complètement. Et moi qui suis né en Algérie en 52, qui ai vécu les 10 premières années de ma vie dans le bled, oui. au milieu, dans un climat de terrorisme épouvantable à partir de 1954. Je voyais tout ça et j'avais l'impression que je venais d'un autre monde. Et j'avais l'impression que je parlais à des extraterrestres. D'ailleurs, eux-mêmes me considéraient avec suspicion, en se demandant en pensant que je ne m'étais jamais remis de cette enfance dans le bled.
Cette nécessité de partir.
Voilà. Et puis de la réalité, de l'expérience intense de ce qu'est le sentiment de danger. Parce qu'en Algérie, bon, dans les villes, si vous évitiez les bistrots, les cinémas, ça allait.
Oui.
Il fallait éviter les lieux publics où il y avait des grenades qui explosaient dans des couffins, des choses comme ça. Mais dans la rue, etc., ça allait. Si vous... tandis que dans le bled, c'est très différent. Quand vous étiez dans...
Vous étiez isolé, en fait.
Complètement isolé. Et la nuit, par exemple, c'était là où c'était le plus inquiétant. Parce qu'on savait qu'il y avait des raids du FLN dans les environs. Et je me souviens, d'ailleurs, mes frères et moi, on racontait nos souvenirs d'enfants. Quand on entendait les chiens qui aboyaient la nuit, on savait que le FLN passait. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Les gars du FLN, ils allaient dans le village arabe à côté pour prélever les taxes, prélever de la nourriture, prélever des médicaments, et faire bien connaître leur présence pour qu'ils ne se lient pas trop aux colons.
Laurent-Arthur Duplessis, il reste deux thèmes, deux questions encore à vous poser, et moins d'un quart d'heure. Peut-être revenir en quelques minutes sur les risques d'escalade, parce que j'aimerais terminer sur l'Europe, la société de consommation, et la conclusion de votre livre. Mais peut-être auparavant, quelques minutes sur ce risque d'escalade entre l'Iran et Israël, qui est annonciateur aussi de cette troisième guerre mondiale.
Oui, parce qu'en effet, on voit qu'il y a une multiplication des foyers. Il y a le foyer ukraino-russe, il y a le foyer moyen-oriental, et je dirais israélo-iranien, puisque c'est un duel Israël-Iran à travers des proxys. Et un foyer indo-pacifique, avec les tensions croissantes entre la Chine et ses voisins, Philippines et Vietnam, et puis Japon, et puis États-Unis. Le bombardement du consulat iranien à Bagdad, qui était accolé à l'ambassade, et qui, de toute façon, le consulat est aussi un territoire diplomatique, donc qui était une terre iranienne, le consulat aussi, un territoire iranien, je crois, marqué une étape extrêmement dangereuse dans une escalade entre Israël et l'Iran. Je crois que c'est très dangereux, parce que l'Iran, maintenant, est confronté à un dilemme.
Alors,
le dilemme, c'est...
Là, ils ont perdu la face,
Ils ont perdu la face. Alors, s'ils réagissent de manière très symbolique, ils l'ont déjà fait pour l'exécution du général Soleimani.
C'est vrai.
En 2020, par un missile américain, le général Soleimani, c'est un héros et de l'Iran, il a un culte.
Tout à fait.
Et déjà, la réaction iranienne a été très, 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 très modérée.
Très modérée, mais c'était une réaction vis-à-vis des États-Unis.
Oui.
On parle d'ailleurs de risque de réaction massive.
Alors voilà.
Et sur Israël.
Parce que là, évidemment, la destruction d'un local diplomatique, ça c'est très grave.
Et oui, c'est grave.
Et si l'Iran réagit trop...
Ça a commencé comme ça, les problèmes avec la diplomatie, avec l'Iran, on se rappelle, les États-Unis, Carter...
Oui, 79, les otages américains de l'ambassade des États-Unis à Téhéran. Et là, si l'Iran réagit trop mollement, il perd la face, et devant la partie de la population qui le soutient, et devant ses proxys, et devant l'Occident, etc. Mais si il réagit à la hauteur de la gravité de l'événement, c'est très grave, parce que ça peut vouloir dire, et en Israël, ça semble être d'ailleurs la grande crainte, que l'Iran va faire pleuvoir une pluie de missiles sur le mouchoir de poche qu'est le territoire israélien, qui même avec le dôme de fer est extrêmement difficile tout de même à imperméabiliser complètement, parce que le dôme de fer, on peut quand même le saturer avec la multitude des projectiles.
Oui. Et on l'a vu, même le Hamas a réussi à saturer à un moment donné avec quelques roquettes. Alors,
et on a vu dans le conflit ukraino-russe à quel point des drones volants à 3000 euros pièce peuvent eux-mêmes saturer un système de défense antiaérienne et peuvent passer à travers les mailles du filet et peuvent faire des dégâts.
Donc il y a un risque d'escalade.
Oui.
Qui, en plus, bien au-delà d'Israël et de l'Iran, derrière, il y a évidemment leurs principaux soutiens, les États-Unis, enfin les Anglo-Saxons pour Israël, et alors la Russie. Est-ce qu'il y a des accords qui se préparent entre l'Iran et la Russie, justement?
Alors,
qui pourrait faire craindre en plus un jeu d'alliance ?
Oui, parce que comme les États-Unis ont jeté la Russie dans les bras de la Chine, ils l'ont en même temps jeté dans les bras de l'Iran. La Russie, maintenant, est intégrée à la chaîne Chine, Iran et Corée du Nord.
Et Corée du Nord, oui.
Et il fallait bien trouver des alliances de l'autre côté.
Bah, évidemment.
Et l'Iran n'est pas entièrement sous le contrôle de Moscou, loin de là. Loin de là. Il n'est même pas entièrement sous le contrôle de Pékin non plus, bien qu'il y ait des jeux d'alliance. Mais si le régime iranien considère qu'il est mis au défi de sa survie, il ira aux extrêmes. Et il ne voudra pas se laisser faire. Donc on est dans la plus grande incertitude.
Sachant qu'au début, on est dans une fuite en avant, parce que qu'on ne me dise pas que c'est une erreur de tir sur le consulat. Il y a une volonté, semble-t-il, de Netanyahou. On l'attend au tournant, Netanyahou, depuis le début de la guerre. Il était extrêmement fragilisé avant le 7 octobre. Il sait très bien que le jour où ça s'arrête, eh bien, il sera déposé. Donc pour lui, et ce serait dramatique, il n'a pas d'autre choix que la fuite en avant.
Et c'est ce qu'il est en train de faire. C'est pour ça qu'il a donné l'ordre de viser ce consulat. C'est pour ça. C'est pas du tout une erreur de tir. Je dirais même que c'est un tir très bien ajusté.
Particulièrement bien
ajusté. Très bien ajusté. Et effectivement, le prétexte, c'est d'avoir supprimé sept officiers supérieurs de la division Al-Quds, le service action des Pasdaran, les gardiens de la Révolution. Alors effectivement, c'est vrai qu'il y avait là un objectif militaire important. C'est vrai que...
parce que c'est eux qui pilotent les proxys. Hein,
oui, bon. Oui, oui. Non, mais, les proxys, ils sont armés et ils sont formés par les Pasdaran, par les gardiens de la Révolution. Le général Soleimani, qui était un génie dans son genre, un génie militaire, avait été d'une efficacité extraordinaire pour structurer les proxys. C'était son boulot, lui. Son boulot, c'était constamment de former, d'armer, de structurer les proxys. Et il le faisait avec une efficacité et un talent absolument extraordinaire. Alors c'est pour ça que les Américains l'ont supprimé aussi. C'est que non seulement il était connu comme le loup blanc en Iran et comme un héros, mais en plus, c'était un opérateur de génie. Mais bon, nul n'est irremplaçable non plus. Hein. Et il a été remplacé.
Donc il y a ce risque de...
Voilà, oui, il y a un énorme risque actuellement. En Israël, ils ont coupé les GPS dans une grosse partie du territoire pour éviter que les drones, etc., se guident sur les GPS israéliens. C'est tout de même une drôle d'ambiance qu'il y a là.
Parce j'imagine.
Cela envoie la fragilité d'une société moderne. Hein. Les sociétés modernes, c'est de la porcelaine. Elles sont tellement complexes et sophistiquées qu'elles sont extrêmement fragiles. Et en plus, comme elles sont très fortement urbanisées, les villes sont des endroits extrêmement vulnérables dès qu'il y a une crise.
Alors, il reste même pas 5 minutes pour conclure. Peut-être on revient sur l'Europe. Vous dites dans votre conclusion, la société de consommation a petit à petit miné, pourri ses élites. Le lucre aussi, la financiarisation à l'extrême. Vous considérez que l'Europe va vivre des grands tourments, va vers de très grosses difficultés, de grands drames. Mais dont, et on finira peut-être par une petite note d'espoir, vous considérez que cela permettrait peut-être à nouveau, tel le phénix renaissant de ses cendres, ce ne serait pas la première fois, que l'Europe puisse renaître de ce qui l'attend.
Oui, dans sa longue histoire, l'Europe en a connu des renaissances, plusieurs. elle a connu des choses terribles. La grande peste de 1348, il y a entre la moitié et les deux tiers des Européens qui sont morts. C'est quand même terrible, ça. Les guerres de religion, ça a été tout de même des tueries à grande échelle, terminées par le traité de Westphalie en 1648, après une guerre de 30 ans, 1618-1648, jalonnée par des massacres énormes, et même trois de mes ancêtres sont morts dans ces guerres de Louis XIV. C'était dans les armées du roi, trois frères. Ils sont morts dans
dans
les armées du roi.
Donc c'est vous, voilà, ces épreuves, elles sont inscrites dans nos, dans notre ADN.
J'espère
finalement
qu'ils n'ont pas trop coupé d'arbres fruitiers dans le Palatinat et qu'ils n'ont pas trop massacré. Hein. Mais bon, c'était l'époque. Et il y a eu la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, les deux suicides de l'Europe. La Troisième Guerre mondiale sera peut-être l'occasion pour l'Europe d'une renaissance culturelle, morale, spirituelle, notamment par le fait que je crois que cette Troisième Guerre mondiale sera le terme d'un système consumériste, hyper-financiarisé, surendetté, marchand, utilitariste et finalement matérialiste profondément, qui aura décérébré d'une certaine manière la civilisation européenne, qu'elle aura banalisée, qu'elle aura castrée. Et je pense qu'en même temps, les populations européennes recèlent au fond d'elles-mêmes un patrimoine intellectuel, culturel, subsistant, survivant, qui peut être la matrice d'une renaissance après les grandes épreuves, parce que les grandes épreuves,
elles nous attendent.
Qui nous attendent, elles vont correspondre à ce que disait Nietzsche, tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, et je crois que elles feront de grands ravages, ces épreuves physiques et biologiques, etc., mais elles permettront un renouveau intellectuel, moral et spirituel de l'Europe.
Ben merci beaucoup pour ce grand entretien. Laurent Arthur Duplessis, dans Le Monde Réel. Merci de nous avoir dispensé toute cette expérience. Plus de 40 ans d'expérience au service de l'information. On a pu le toucher du doigt. Et puis on espère à très bientôt, évidemment, sur Géopolitique TV et dans Le Monde Réel. Merci Laurent Arthur Duplessis.
Eh bien, c'est moi qui vous remercie.
Chers internautes, nous vous rappelons le magazine de Géopolitique Profonde. C'est le magazine anniversaire, un an, donc n'oubliez pas de venir, si ce n'est pas déjà fait, souscrire à ce magazine. Vous y retrouvez les meilleures plumes et aussi les intervenants de GPTV, Philippe Erlin. Nous avons Franck Pengam qui fait un long article, sinon vous avez Jean-Maxime Corneille, vous avez le général Delavarde, et puis Laurent Ozon, une multitude d'auteurs inspirés sur l'information de la géopolitique. Merci, chers internautes, et à très vite dans Le Monde Réel, sur Géopolitique Profonde TV.
S'ils veulent un responsable, il est devant vous. Qu'ils viennent le chercher.
Chez GP, nous aussi on assume nos positions politiquement incorrectes. D'ailleurs, toutes les informations les plus sulfureuses sur les sujets clés de la politique et de l'économie sont dans notre revue mensuelle. Avec bien sûr toutes nos stratégies financières pour lutter contre ce système. Vivez l'expérience inédite d'une lecture dissidente. Attention, tout abus de contenu dissident comporte des risques, parlez-en à votre médecin.